nous présente Alternative. Les seconds vendredis de chaque mois à 17h sur Radio Bartas, il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Alors, bonjour à toutes et à tous. On est bien dans Alternative. Aujourd'hui, c'est moi qui ai les rênes de l'émission. Donc, salut Philippe.
Salut.
Lorsque tu avais parlé dans une émission précédente de la nécessaire évolution du travail, tu avais évoqué la possibilité d'établir un revenu d'existence afin que chacun ait la possibilité de vivre décemment, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Donc, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, de ton émission, qui fait suite à l'émission du travail. La première question, qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce qu'on entend généralement par revenu d'existence ?
Alors, le revenu d'existence qu'on peut nommer aussi revenu citoyen ou dividende citoyen ou revenu inconditionnel d'existence, enfin bon, il a tous les termes. C'est une somme qui serait allouée à chaque individu de la naissance à la mort, quel que soit son état, quel que soit ses... pour tout le monde.
Pour tout le monde, pour les riches comme les pauvres.
Les riches comme les pauvres, voilà. Donc c'est une somme qui permettrait à chacun de vivre décemment sans pour autant travailler. Et une somme qui serait cumulable à d'autres revenus tels que l'allocation chômage, la retraite, etc.
Et qui serait cumulable à un salaire éventuellement aussi ?
Qui serait cumulable évidemment à un salaire. Donc les gens qui veulent travailler parce qu'ils s'épanouissent dans le travail, donc ils pourraient travailler, cumulant ainsi le revenu d'existence à leur propre travail.
D'accord. Donc en fait, ça m'a l'air assez différent de ce qui existait avant le RMI et qui est aujourd'hui le RSA. Ce serait quoi les différences fondamentales entre ces choses-là ?
Alors déjà, bon, avant de parler du RMI, du RSA, qui serait dans le cas de l'instauration d'un revenu d'existence, bien entendu supprimé, il faut faire un petit peu l'historique de ce revenu. Il y a très longtemps, c'est une vieille idée en fait, l'idée elle a germé dans l'esprit de l'humaniste Thomas More dans les années 1516, donc c'est très vieux. Qui a émis l'idée d'une somme allouée à chacun pour lutter contre la criminalité. Ensuite, lors de la Révolution américaine, l'économiste Thomas Paine a émis aussi l'idée de reverser une somme aux citoyens en compensation de l'expropriation des terres, parce qu'il considérait que la terre appartenait à tout le monde. Et bon, l'idée a été abandonnée. Et puis, il y a une quarantaine d'années, donc l'idée a refait surface. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'économistes de gauche comme de droite se sont emparés de ce problème. Il faut savoir que ce soit Kenneth Galbraith ou même plus curieusement Milton Friedman, l'économiste ultra-droitier que nous connaissons bien, sont favorables aux revenus d'existence. En France, plus près de nous, bon, il y a Christine Boutin qui est aussi favorable à cette chose-là. Des hommes politiques comme Yves Cochet, les Verts en particulier, donc sont très favorables à l'établissement d'un revenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de revenus d'existence, un revenu d'existence de gauche et un revenu d'existence de droite. Je m'explique. Le revenu d'existence de droite, hein, en quelque sorte, c'est une somme ridiculement basse de 300 euros à peu près, qui serait allouée à tout le monde, hein, et qui serait absolument insuffisante pour vivre, qui forcerait les gens à chercher du travail, n'importe quel travail, à courir après les missions, et puis on verrait apparaître un patronat de négriers, en quelque sorte, hein, qui offrirait des salaires ridiculement bas. Donc on considère aussi que c'est un cadeau aux entreprises, en fait. Hein.
Voilà. Oui, ça leur permettrait de ne pas payer un salaire complet, par exemple.
Exactement. Alors, quant au revenu d'existence de gauche... il part du principe suivant. Il part de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, je vais vous en donner lecture, parce que ça me paraît intéressant. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Bon, c'est clair, hein ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet article-là est bien loin d'être respecté, bien sûr.
Il est dans la Constitution française.
Il est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
D'accord. Hein,
voilà. Alors, pour en revenir à la question que tu me posais tout à l'heure, à savoir est-ce que quid du RMI, quid du RSA, il faut savoir que le RSA et le RMI, si le revenu d'existence était instauré, il n'aurait plus lieu d'être.
Ouais, ça me paraît logique.
Et voilà. Donc parce que l'intérêt du revenu d'existence, c'est de garantir un droit pour tous, un droit de vivre décemment pour tous, hein, selon l'article, le fameux article 25. Ça supprimerait, si tu veux, le passage obligé au guichet. Hein. Le guichet, c'est le fait d'aller demander les aides pour savoir si oui ou non on a droit. Hein. C'est une démarche humiliante, en fait.
C'est un peu humiliant, oui.
Voilà, complètement. Mm. Alors, supprimer le chômage aussi, hein, parce qu'à ce moment-là, les gens qui décideraient de ne pas travailler ou qui considéreraient faire un travail ingrat, mal rémunéré, peu valorisant, choisiraient de vivre avec le revenu d'existence, hein, et puis par ailleurs participer à la vie associative, au lien social, en fait. Hein.
Ça, c'est une idée géniale parce qu'en fait, ça permettrait aux gens d'arrêter de travailler par obligation, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, on est obligé de travailler. Hein, on est obligé de travailler et on fait parfois. Il y a des travaux qui sont valorisants. Il y a des professions qui sont valorisantes, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont affreuses. Hein, on perd sa vie à la gagner, en fait, en quelque sorte. Donc, il y a qu'à demander aux caissières, il y a qu'à demander aux gens qui travaillent, qui ont des emplois peu valorisants, je pense qu'ils seraient les premiers à sauter sur le revenu d'existence pour échapper à leurs conditions.
Et la liste de ces métiers-là, elle est longue.
Voilà, mais complètement, ouais.
Bon, du coup, puisqu'on sait maintenant qu'est-ce que serait un revenu d'existence, ou du moins à quoi il servirait, de combien on aurait besoin pour vivre décemment ?
Alors, le problème, et c'est là que souvent ça chope dans la définition du revenu d'existence. Qu'est-ce que c'est que des besoins suffisants ? Bon, les besoins des uns ne sont pas forcément les besoins des autres. On se doute bien qu'un célibataire parisien, il a des besoins autres et différents et plus importants que quelqu'un qui vit en Lozère, par exemple. Donc quelqu'un qui a plusieurs enfants, il a plus de besoins qu'un célibataire, etc. Donc, les besoins, c'est subjectif. Hein. Bon, ce qui me plaît à moi, j'aurais peut-être plus de besoins moi que quelqu'un d'autre. Hein. Donc pour permettre à chacun de vivre décemment, il faudrait que le revenu d'existence soit supérieur au seuil de pauvreté, qui est 750 euros chez les gens.
Hein. 750 euros
Au-dessus de 750 euros.
Par personne.
Par personne. Pour les adultes, pour les mineurs, c'est un peu moins. Donc c'est 280 euros, je crois.
D'accord.
Voilà.
C'est pas grand-chose.
Non, c'est pas grand-chose, mais répétons-le, c'est cumulable avec un autre travail, hein, les gens qui veulent travailler, donc ils travaillent et puis ils touchent le revenu d'existence.
D'accord. Donc en fait, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y aurait plusieurs revenus d'existence selon le statut, selon la situation de la personne ? S'il est mineur, s'il est majeur, s'il est célibataire, s'il a des enfants, s'il habite à Paris ou s'il habite en province ou dans une...
Non, pas du tout. C'est une somme allouée à tout le monde qu'il habite soit à Paris, soit en province.
D'accord.
Enfin, c'est une somme qui est équivalente pour tout le monde.
Hein. Okay.
Alors maintenant, il se pose... j'ai annoncé la somme de 750 euros par personne. Ça fait beaucoup d'argent. Hein.
Ça fait pas mal d'argent d'ailleurs. Alors, D'ailleurs, on entend souvent dire que les caisses de l'État sont vides, la dette publique, tout ça. Comment on pourrait financer un tel revenu?
Alors, le coût de l'opération, 470 milliards d'euros par an. Donc ça paraît énorme. Et c'est important. Alors, comment financer un tel revenu? Il y a deux types de financement qui sont envisagés. L'autofinancement et le recours à l'impôt. Alors, l'autofinancement, c'est on supprime, je t'en ai parlé déjà tout à l'heure, le RMI, le RSA, l'association des chômeurs en fin de droit, certaines allocations qui sont en dessous du revenu d'existence.
D'accord.
Les exonérations fiscales, etc. etc. Ça représente déjà 70 milliards d'euros. D'accord. Ensuite, une grande part du budget de l'État qui est consacrée à la lutte contre le chômage, aux exonérations fiscales, aux aides aux emplois aidés, etc. Donc là, ça représente 50 milliards. Donc, c'est énorme. Hein. Donc en autofinancement, le revenu d'existence peut dégager déjà 120 milliards d'euros. Première chose.
Il en manque une bonne partie.
Oui, non mais deuxième chose. Alors, on serait obligé de recourir à l'impôt. Alors, on a pensé à l'augmentation de la TVA, mais la TVA, c'est un impôt injuste parce qu'il est bien connu que les gens aisés consomment moins que les personnes économiquement plus faibles.
Hein. Comment ça consomme moins?
Ben oui, parce que la TVA pèse plus sur les bas revenus que sur les hauts revenus. Hein. Donc c'est un impôt qui aurait un impact aussi sur le pouvoir d'achat. Hein, parce que si on augmente la TVA, les choses sont plus chères. Donc le revenu d'existence en prend un coup.
Ouais.
C'est ça le problème. Donc une des solutions envisagées, c'est l'augmentation de la CSG. La CSG et la CRDS. Hein, pourquoi la CSG? Parce que la CSG, c'est un impôt vertueux, qu'on appelle, parce que il est pris à la source. Et il est pris chez tout le monde. Il n'y a pas de dégrèvement possible. Il n'y a pas de niche fiscale. Donc tout le monde paye pareil. Hein. Et il suffirait d'une augmentation de 35 points de la CSG. Bon, ça paraît énorme comme ça. Mais avec le revenu d'existence, ça ne se verrait pas. Ça ne se verrait pas parce que tout à l'heure, je vais te faire un...
Il n'y a que les gens qui travaillent qui payent la CSG.
Oui.
Ouais.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc effectivement, s'ils touchent leur revenu d'existence, ça pourrait compenser.
Exactement. Voilà. Donc une hausse de 35 points environ, ça dégage 10 milliards d'euros par point. C'est énorme. On adopterait aussi un taux d'imposition de 47% en couplant la CSG avec la CRDS qui permettrait de dégager 370 milliards.
Donc quasiment ce qui manque pour financer son revenu.
Autofinancement, 120 milliards. Recours à l'impôt, 370 milliards. Donc ça fait les 470 milliards. Donc ouais, voilà, ça y est.
Le compte est bon, quoi.
Le compte est bon. On peut dire que le revenu d'existence, c'est une utopie qui est déjà là, hein, puisque...
C'est réalisable, en fait.
Ouais, non, mais complètement, complètement. D'accord. Il suffit d'une volonté politique.
On se fait une petite pause musicale et on reprend cette discussion.
Ouais, d'accord.
Tu nous as choisi un morceau.
Oui, alors j'aimerais bien écouter Vortex Rhapsody d'Alchimic Néon.
Allez, c'est parti.
Je venais de naître adulte, j'ai croisé son adolescence, céleste à y vouer un culte, astral embrasé les sens, on a retrouvé liquide, noyé dans ton inconsistance, ton aval expression frigide. Se défiler, en funambule faire du surplace, sur le fil des hostilités. Je veux dénuder de son désir, pour y planter mon pieu sacré, imprimer de son dernier soupir dans ma mémoire le condamné. perdre mes sens, aimer, vomir, haïr, aimer. Derrière les mots qui ont un sens, vomir les êtres vertébrés. Dans les faubourgs de l'innocence, les sens à dos, les yeux fermés. J'ai croisé ton adolescence, tout juste bonne à lapider. Perdre ma vie à perdre mes sens, aimer, vomir, haïr, aimer. Derrière les mots qui ont un sens, vomir les êtres vertébrés. Dans les faubourgs de l'inconscience, les sens à dos, pieds et poings liés. J'ai croisé ton adolescence, tout juste bonne à débosser. Dans les faubourgs de l'insouciance, les sens à dos et la nausée. J'ai croisé ton adolescence, tout juste conne à en pleurer. J'aimais ta peau douce sous mes doigts, je veux ta chair crue sous mes ongles. Oui, j'adorais tes hauts et bas, ondulations dans la pénombre. Souiller ton corps, mon exutoire, tarir la source où j'aimais boire, glacer l'abîme où j'aimais fondre, t'ensevelir sous mes décombres, sous tes putains de douches écossaises. Oui, j'adorais tes chauds, tes froids, en haut au pied de la falaise, petite main, grands aléas. Sous tes putains de douches écossaises, entre la peste et le choléra, j'ai choisi d'accepter que tu me baises à la mort, même avec un grand tas. Perdre ma vie à perdre mes sens, aimer, vomir, haïr, aimer. Derrière les mots qui ont un sens, vomir les êtres vertébrés. Dans les faubourgs de l'innocence, les sens à dos, les yeux fermés. J'ai croisé ton adolescence, tout juste bonne à lapider. Perdre ma vie à perdre mes sens, aimer, vomir, haïr, aimer. Derrière les mots qui ont un sens, vomir les êtres vertébrés. Dans les faubourgs de l'inconscience, les sens à dos, pieds et poings liés. J'ai croisé ton adolescence, tout juste bonne à débosser. Dans les faubourgs de l'insouciance, les sens à donner la nausée. J'ai croisé ton adolescence, tout juste conne à en pleurer. Ruelle et funeste d'architecte, tout juste conne à en pleurer.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas, on vient d'écouter Alchimique Néon. Et donc on est toujours avec Philippe pour parler du revenu d'existence. On parlait du budget là jusqu'à présent.
Voilà, donc je vous ai parlé du mode de financement du revenu d'existence, donc l'autofinancement et puis le recours à l'impôt. Maintenant, pour fixer un petit peu les idées, je vais vous démontrer un exemple chiffré. Alors, je gagne 1000 euros par mois, d'accord ? Je perçois par ailleurs un revenu d'existence de 750 euros par mois aussi. Avec la CSG majorée de 47%, je reverse donc 470 euros plus 44 euros d'impôt sur le revenu. Je perçois donc 1000 moins 450 que je verse aux impôts, moins 44. Ça fait 486 euros, d'accord ? Mais avec le revenu d'existence qui est cumulé à ce que je gagne, donc 486 euros plus 750, 1236 euros. Donc je gagne 1236 euros au lieu de gagner 1000 euros, voilà.
Par rapport au revenu d'existence, certains diront que ça va favoriser les oisifs, qu'on va être obligé de travailler pour financer les feignants, ils vont dire ça ?
En fait, tout le problème vient de ce que le travail a pris une place centrale dans nos vies. On considère que maintenant il faut travailler pour vivre, on est obligé, sinon on subit le chômage. Donc voilà. Mais moi, je pense qu'il y a un truc qui me dérange pas, si tu veux, c'est que qu'importe si les gens bénéficient du revenu d'existence. Et puis choisissent de ne pas travailler, en faisant des activités diverses, enfin ce qui leur plaît, leurs loisirs, travailler dans des associations, etc. Où est le problème si des gens décident de travailler aussi en ayant un salaire un peu plus élevé?
Et ça permettrait même peut-être de participer plus aux projets associatifs, de faire du bénévolat, des choses comme ça aussi.
Exactement, voilà.
De ne pas travailler, mais d'avoir assez pour vivre en fait, et du coup consacrer son énergie à des choses valables.
Ah ben, de toute façon, il faut penser que tout le monde est... Il y a pas de... Tu parlais tout à l'heure d'oisifs, d'inactifs. Il n'y a pas d'inactifs. Hein. Tout le monde est actif. Hein. Tout le monde travaille d'une façon ou d'une autre. Hein. Que ce soit en faisant du jardinage, en faisant une belote avec ses copains, en étant partie prenante dans le milieu associatif... Et tout ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle, ça dégage une certaine richesse. La richesse, quand on est dans une association, en groupe, elle est le profit immédiat. Quand on est solitaire, qu'on fait son jardin et qu'on fait une activité tout seul, bon, le profit n'est pas immédiat, mais il retombera sur la société d'une façon ou d'une autre. Voilà, et contribuera ainsi à enrichir la société.
D'accord. Alors j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une chance, c'est deux questions en une, est-ce qu'il y a une chance pour que ce revenu d'existence rentre en application, soit mis en place? Ça c'est ma première question. Ma deuxième c'est s'il est mis en place, ça sera à un niveau national, à un niveau européen?
Alors le revenu d'existence c'est un défi. Bon, c'est un défi que nous devons de relever. Mais par le passé, des défis ont été relevés. Prends par exemple le défi de la sécurité sociale, le défi du financement des retraites, ils ont été réalisés. Et pourquoi pas essayer de réaliser le défi du revenu d'existence, qui est, rappelons-le, une utopie qui est déjà là. Puisque au lieu de financer toutes les aides diverses pour lutter contre le chômage et le plein emploi qui est finalement qu'un mythe et puis qui ne reviendra pas, voilà, donc essayons de réfléchir à ce revenu d'existence pour essayer de vivre autrement, pour essayer de donner une place moins importante au travail. Il ne s'agit pas de donner une prime aux feignants, ce n'est pas ça. Il suffit simplement de remettre le travail à sa place.
Et puis de ne pas travailler à mauvais escient en fait.
Voilà, exactement, de faire des choses qui sont utiles à soi-même, d'abord pour se faire plaisir, et puis quand on se fait plaisir, le bénéfice qu'on en tire rejaillit sur la société. Ouais. Voilà, donc à charge de l'État, lorsque le projet sera mis en place, à charge de l'État de favoriser la formation permanente, de la formation populaire, les associations, tout le tissu associatif qui crée du lien social. Parce que c'est bien ça le fond du problème. Le lien social actuellement, d'ailleurs j'ai fait une émission là-dessus, me semble-t-il, le lien social uniquement actuellement, c'est le travail. Et quand on perd son travail, on perd le lien social. C'est ça qui va pas. Et le but du revenu d'existence, si tu veux, c'est de permettre de recréer du lien social.
D'exister en dehors du travail.
Exactement.
Et d'avoir une place dans la société.
Exactement.
Ouais, c'est une très belle idée, en tout cas. Je crois qu'on a fait le tour de la question.
Voilà.
T'avais quelque chose à rajouter pour conclure ou...
Bah pour ma conclusion, je l'ai déjà faite. Hein. J'ai dit que bon, c'était une utopie réaliste et qui est presque là en fait, hein, et que bon, c'est un défi à relever, mais qui n'est pas impossible puisque d'autres défis ont été réalisés par le passé. Voilà. Donc soyons réalistes, hein, exigeons l'impossible.
Super. Eh ben on va se quitter sur cette belle parole. Salut Philippe.
Salut.